Vous écoutez RTL.
On reconnaissait que c'était un corps parce qu'il y avait le tibia qui dépassait. Hein. À 21 ans, finir comme ça, c'est atroce. C'est atroce. Brûler une personne, une jeune personne comme ça, c'est affreux. Des tueurs qui font ça, des tueurs.
Bonsoir. Qui en voulait à Sabine Guyot, 21 ans, mère d'une petite fille de 10 mois? Cela fait exactement 16 ans que cette interrogation hante sa famille et obsède les enquêteurs. Son corps avait été découvert, carbonisé en mai 2005, jeté dans un champ près d'Arras, presque au regard de tous, comme s'il s'agissait de faire de ce crime un exemple ou un avertissement. Au fil des mois et des années, les enquêteurs vont explorer toutes les pistes possibles. Entendre des dizaines de témoins, plusieurs hypothèses restent dans la balance. La possibilité que Sabine Guyot ait croisé la route d'un tueur en série n'a jamais été écartée. Enquête qui avait failli s'éteindre, faute d'indices et de preuves, mais qui a été relancée depuis 2 ans à la faveur de nouveaux témoignages, une accélération des investigations jusqu'à ce rebondissement. Mardi 11 mai 2021, la justice a ordonné l'ouverture de la tombe de la jeune femme pour procéder à de nouvelles expertises.
20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Sabine Guyot, un cold case qui dure depuis 16 ans, enquête qui démarre par une macabre découverte dans un décor de campagne à quelques kilomètres d'Arras. Ce lundi 2 mai 2005, sous un ciel gris et pluvieux, un couple arrête sa voiture sur le bas-côté de la départementale 937, au lieu-dit La Targette, un peu au nord d'Arras, entre les localités de Neuville-Saint-Va et Sainte-Catherine. Une route qui est loin d'être isolée, c'est même une artère plutôt passante, empruntée chaque jour par des dizaines d'automobilistes. On ne vient pas ici pour s'y cacher. En cette fin de matinée, le couple a choisi ce lieu pour promener leur chien. Le propriétaire a alors tout le loisir d'observer la campagne alentour, un paysage agricole. Son œil est immédiatement attiré par une espèce de tas de boue encore fumant. Il s'approche sans que la terre est tiède et détecte une vague odeur d'essence. L'homme observe alors une forme curieuse qui ressemble à une silhouette. Il est frappé de stupeur en apercevant un pied humain qui dépasse de ce monticule. Les gendarmes de la brigade de Vimy, toutes proches, sont prévenus de cette découverte. Il ne leur faut qu'une poignée de minutes pour arriver sur les lieux. Les gendarmes explorent minutieusement ce tas de boue et de craie qui fut un brasier. Eux aussi notent une légère odeur d'hydrocarbures. C'est bien un corps humain qui est carbonisé. Le feu a dû être d'une grande intensité. La victime s'est comme recroquevillée sous l'effet de la chaleur. Ses 4 membres sont relevés et sa tête semble penchée sur le côté. Un gendarme confie ses souvenirs à la Voix du Nord. C'est une crémation. Ce n'est plus un être humain. Le corps n'est plus un corps. Les os ont éclaté avec la chaleur, c'est un humain, mais ça ne ressemble plus à un être humain. Les premiers enquêteurs gèlent la scène de crime et en interdisent tout accès, en attendant l'arrivée des experts scientifiques. Quand ces derniers arrivent aux alentours de 13h, un violent orage s'abat sur le secteur, le monticule est rapidement noyé de pluie, l'eau ruisselle sur le sol et détériore les empreintes de pas qui auraient pu être relevées par les spécialistes. Les gendarmes essaient de protéger autant que possible la scène, en posant notamment des planches à la va-vite. L'orage a causé beaucoup de dégâts. Les enquêteurs collectent des mégots. Ils relèvent également des traces de pneumatiques, le lieu étant accessible par un chemin de terre. La victime demeure pour le moment non identifiée. Au regard des premières constatations, la légiste songe spontanément au corps d'une adolescente, une fille qui aurait entre 15 et 17 ans. Il va falloir maintenant donner un nom à ce cadavre. Ça va devenir la priorité pour les enquêteurs, chose qui n'est pas facile. Au bord de cette route fréquentée, la victime n'est pas forcément du coin. Elle peut même venir de très loin, la frontière belge est toute proche. Le procureur d'Arras, Jean-Pierre Valenzy, et les gendarmes sont bien décidés à faire au plus vite toute la lumière sur ce crime abominable. On ne sait pas comment a succombé la victime, étranglée, poignardée, tuée avec une arme à feu. Impossible de le dire tant la dépouille a été réduite en cendres. Seule certitude, elle aurait été jetée morte au bord de cette route, posée sur ce tas de déchets agricoles, aspergé d'essence et embrasé. Pour faciliter les investigations, une cellule baptisée Homme 62 pour homicide 62, numéro du département du Pas-de-Calais, une cellule est mise en place. Elle compte 8 gendarmes. La piste indiquée par le médecin légiste est celle d'une adolescente. Les recherches s'orientent donc dans cette direction. Les enquêteurs dénombrent alors 5 disparitions considérées comme inquiétantes, signalées dans la région, mais il s'agit de femmes dont le profil ne cadre pas avec celui de la malheureuse. Elles sont toujours trop âgées. Par précaution, des comparaisons ADN seront effectuées, saine précaution, car il s'avère que la légiste a fait fausse route. Elle n'avait pas noté que la victime portait un stérilet. Le médecin évoque désormais une femme entre 20 et 28 ans. Le 14 juin 2005, 6 semaines après la découverte du corps et après avoir perdu beaucoup de temps, la victime de la départementale 937 est enfin identifiée. L'ADN a matché et le stérilet, qui porte un numéro d'identification du fabricant, a confirmé l'identité de l'inconnu. Il s'agit d'une jeune femme de 21 ans dont la disparition avait été signalée au commissariat de Béthune après le week-end du 1er mai. Elle s'appelle Sabine Guyot, maman d'une petite fille de 10 mois mais séparée de son compagnon. Elle habite chez ses parents, quartier des Plaintes, dans l'ancienne cité minière de Liévin. Elle a 2 frères et une demi-sœur, une famille des plus modestes. On sait encore de Sabine qu'elle n'a pas d'emploi fixe, une jeune femme qui aime sortir, s'amuser, fréquente les cafés, aime faire la fête et rencontrer du monde. Gentille et pas méfiante, prête à engager la conversation avec n'importe quelle personne, même un inconnu. Ses parents sont sous le choc et ne parviennent pas vraiment à livrer un témoignage digne de ce nom. Ils semblent plutôt prostrés dans leur chagrin, résignés devant une espèce de fatalité. La dernière fois que sa mère a vu sa fille, c'était le vendredi 29 avril vers 18h. Celle-ci lui a indiqué qu'elle sortait car elle avait un rendez-vous, sans autre précision. Tâche difficile pour les enquêteurs. Il va falloir reconstituer le parcours de la jeune femme, savoir ce qui s'est passé entre le 29 avril 2005 et le 2 mai. Un week-end qui a toute l'apparence d'un trou noir. Personne n'a croisé Sabine, personne ne lui a parlé, personne ne l'a vue. 5 jours après la découverte du corps, le 7 mai 2005, les gendarmes s'étaient postés tout près de cet endroit sur le bord de la départementale 937. Ils avaient alors arrêté les automobilistes pour leur distribuer un appel à témoins. Procédure classique, beaucoup de conducteurs font chaque jour le même trajet. Autant de personnes qui auraient pu apercevoir quelque chose de suspect. D'autant plus que, de toute évidence, rien n'a été fait pour dissimuler ce forfait. On aurait voulu que le corps soit découvert. On ne s'y serait pas pris autrement. Les premiers témoignages sont décevants. Ils ne concordent pas. Des automobilistes indiquent qu'ils ont bien aperçu une lueur, des flammes, de l'autre côté de la route. Pour l'un, c'était dans la soirée de vendredi. Pour un autre, c'était le samedi. Des personnes qui sont cependant formelles et de bonne foi. Serait-il possible alors que le corps de Sabine se soit consumé pendant 48 heures? La dépouille aurait-elle été brûlée en 2 temps? Les analyses du corps décèlent des traces de strontium, un élément chimique qui est notamment produit par l'organisme lors d'une noyade. Serait-ce le cas pour Sabine? Il est également détecté par l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie, des traces de plomb dans le corps. La jeune femme aurait-elle été tuée par une balle? À l'époque, le corps est une première fois exhumé, fausse piste. Le plomb en question est celui d'un amalgame dentaire, un plombage. 10 ans vont ainsi s'écouler sans que la mort de Sabine Guyot ne soit élucidée. En 2015, faute d'éléments, le juge d'instruction décide de classer l'affaire. Investigation qui repart néanmoins l'année suivante sur la base d'un nouveau témoignage, des bavardages, des indiscrétions qui conduisent à 5 gardes à vue. La belle famille de Sabine se retrouve ainsi dans la ligne de mire des enquêteurs. La jeune femme s'était battue pour conserver la garde de sa petite fille. Elle avait pour cela saisi le juge des enfants de Béthune qui avait répondu favorablement à sa requête. Elle s'était alors séparée du père de sa fille. Depuis, Sabine semblait être détestée par sa belle-famille. L'ex-compagnon est entendu, tout comme son père, un chasseur de la région qui élève et vend des poulets. Tous deux fournissent des alibis plus ou moins précis. Il y a bien du sang dans la voiture du beau-père, mais il s'agit de sang animal. À l'issue de leur garde à vue, les deux hommes sont placés sous le statut de témoins assistés ils n'ont jamais été mis en examen dans ce dossier. Les gendarmes n'ont donc pas de certitude, malgré l'aridité du dossier, ils sont bien décidés à poursuivre leurs investigations et à faire toutes les vérifications possibles. Et si l'assassin était un tueur en série ? Les gendarmes sont bien décidés à ne laisser aucune vérification au hasard. Ils travaillent pour cela avec un premier logiciel Analyst Notebook, une base de données qui peut livrer certaines concordances à partir d'une scène de crime. Mais cette recherche ne donne rien. La cellule d'enquête Homme 62 va ensuite tenter de puiser dans les ressources d'un logiciel bien plus moderne et puissant, la base de données Salvac, qui peut rapprocher certains crimes. Le but, dans le cas présent, est de savoir si d'autres femmes ont été tuées de la même façon que Sabine. Des affaires émergent alors d'autres femmes tuées en 2006 et 2007 autour du 1er mai, 28 avril 2006. Chantal Séguinot, frappée à la tête, les mains liées dans le dos, pas de trace ici de brasier. 30 avril 2007, Jennifer Charon, une serveuse de 21 ans, retrouvée morte dans un sous-bois de Saint-Sulpice de Royan en Charente-Maritime, frappée à la tête, son corps en partie calciné. Ou encore avril 2008, l'étudiante suédoise Susanna Zetterberg, corps en partie calciné, abandonné en forêt de Chantilly. Son meurtrier, Bruno Chollet, sera questionné mais mis hors de cause pour le cas Sabine Guyot. Quelques 90 pistes vont ainsi être suivies par les gendarmes. Mauvaises rencontres, rôdeurs, serial killers, entourage familial et même vengeance. À 18 ans, Sabine avait déposé plainte pour viol contre 4 hommes. Affaire restée sans suite. Aucune de ces pistes ne donne de résultats probants. Deux gendarmes basés à Villeneuve-d'Ascq restent affectés au suivi de l'affaire, notamment à l'écoute de témoins qui de temps à autre se manifestent. Le journal La Voix du Nord n'est d'ailleurs pas en reste de témoignages. Un homme raconte ainsi de façon détaillée qu'il se rendait à une brocante le 1er mai 2005 et a vu sortir une voiture de l'endroit où sera découvert le corps au lieu dit la Targette. Il se souvient d'un fourgon de couleur caramel immatriculé dans le Calvados. Deux autres témoins vont également se manifester auprès du journal. Une femme, certaine d'avoir vu le feu le samedi 30 avril au soir, au lendemain de la disparition de Sabine. Un homme, également témoin de flammes, ce samedi entre 22h45 et 23h, il a aperçu, lui, les phares d'une voiture qui semblait sortir d'un chemin de terre et qu'il a laissé passer au rond-point. Le 4 mai, cet homme avait fait part de sa vision aux gendarmes, mais son témoignage n'aurait pas été retenu. Preuve que l'enquête n'a jamais cessé, le juge d'instruction décide d'exhumer une deuxième fois le corps de Sabine Guyot afin de se livrer à de nouvelles expertises. Le 1er septembre 2020, les gendarmes de la division atteinte aux personnes de la section de recherche de Villeneuve-d'Ascq renouvellent leur appel à témoins dans le dossier Sabine Guyot. Il est effectivement fréquent que même des années après, la mémoire rejaillisse chez certaines personnes. L'enquête peut ainsi s'enrichir de nouvelles déclarations. Quelques mois plus tard, le juge qui supervise l'enquête décide d'employer les dernières techniques médico-légales. Une chance peut-être de détecter un indice sur le corps calciné de la jeune femme. Il fixe donc au mardi 11 mai 2021 une nouvelle exhumation de la dépouille en présence de la famille de Sabine et des gendarmes. Ces analyses pourrait prendre des mois, le corps de la victime ayant été en grande partie carbonisé. Une première exhumation, on s'en souvient, avait eu lieu dans les mois suivant le crime. Il s'agissait alors de déterminer si Sabine n'aurait pas reçu une balle tirée par une arme à feu. Impossible de savoir si l'enquête Sabine Guyot aboutira. Le père de la victime, René Guyot, est depuis décédé. Sa mère, Nicole, enfermée dans son chagrin, n'est jamais réellement parvenue à faire le deuil de Sabine, qui aurait aujourd'hui 37 ans. Sa fille en aura bientôt 17. Elle attend, elle aussi, des réponses sur cette tragédie qui lui a enlevé une mère qu'elle n'aura jamais vraiment connue.